Seigneur, tu es déjà présent au milieu de nous. Tu as sur le temps où tu veux encore nous parler. Accorde-nous les oreilles des disciples pour entendre comme toi tu veux que nous entendions. Merci pour la présence de ton esprit. Merci de nous donner de donner ta parole avec clarté. Merci de permettre à ton peuple de le recevoir. Et si nous sommes à paix, l'objectif que tu veux de nous parler et non de recevoir. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Comme je voulais annoncer au commencement, au début, nous allons parcourir les proverbes qui nous permettons de regarder en toile de fond les études que nous faisons dans les cours de quartier dans Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de paraboles. Il y a quelques semaines, Clémence avait commencé par la parabole de Luc chapitre 15, à l'intérieur desquelles nous voyons la dynamique conjointe. La personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en action pour le salut de l'être humain. Et avec vous, par deux fois, nous avons visité Matthieu chapitre 13, dans lequel se trouvent 7 ou 8 proverbes, parfois une seule phrase. Par exemple, le verset 52. Nous avons vu proverbe de la semence, sur laquelle je suis revenu deux fois. Parce que la première fois où elle a été dispensée, la sonorité de la salle n'était pas bonne, donc le message n'avait pas été bien reçu. Ce qui m'a beaucoup fait de la peine d'ailleurs. Et je suis revenu d'une autre manière, pour lui dire les mêmes vérités, sinon les compléter intelligemment. Et aujourd'hui, nous restons toujours dans Matthieu. Mais avec un autre texte que nous allons lire ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ce n'est pas dans son champ, ça c'est dans un champ, c'est pas pareil. L'homme qui a trouvé le cache de nouveau. Alors, je crois que les enfants ont été contents dans ce lieu de cache-cache-là. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il a et a acheté. On va s'arrêter là. Ça, c'est un autre thème. En 2015, des explorateurs ont découvert dans le nord d'Israël un trésor datant de la période d'Alexandre le Grand. Il semblerait que ce trésor fut enseveli par quelques-uns de ses officiers qui séjournaient dans la région. Il aurait décidé de retourner en Macédoine pour essayer de mettre de l'ordre dans le chaos qui aurait suivi l'annonce de sa mort. Par erreur. Alors, il fit ce que beaucoup firent ce temps-là. Placer leur argent, leur trésor en lieu sûr. Mais selon vous, quel est le lieu sûr où vous pouvez placer votre argent? Vous pensez plus que dans Jésus, j'ai l'impression. Il faut avoir confiance à quelqu'un pour lui donner son argent. Vous placerez votre argent où votre trésor? s'est fait une sorte de cordon dans lequel il met tout ce que son argent et après son serré, elle dort avec. Dans les bas de laine, à l'époque, ça se faisait. Mais maintenant, parce que la question à laquelle chacun doit répondre, il ne répond pas. En effet, à l'époque ancienne, le meilleur des endroits était le sol. Et ils ont fui leur fortune dans le sol dans l'espoir de retourner dès que possible pour les reprendre. Et c'est ce qu'avaient fait ces officiers. Mais sauf que eux, quand ils l'ont fait, ils ne sont plus retournés. Ils sont morts sur le champ de bataille. Et le trésor est resté inaccessible. D'après les informations des archéologues qui exhumaient les vestiges de l'époque, avaient retrouvé quelque chose de ce genre-là. Quelle chance pour eux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jésus utilise les paraboles? Jésus utilise les paraboles pour deux raisons. Je l'ai déjà évoqué, je le dis encore. Pour garder le secret de la famille de Dieu, Jésus utilise les paraboles pour que ses adversaires de l'extérieur ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est venu en paix. Il sait que le diable a rendu captif le monde. Il a dénaturé tout ce que Dieu a fait. Et il est venu par la volonté de Dieu de faire toute chose nouvelle. Mais pour cela, il n'a pas besoin de laisser le secret de la bataille entre les mains de l'ennemi, qui est le diable. C'est dans ce sens-là que Jésus parle en parabole. Ses disciples, à un moment donné, n'ayant pas compris, ils lui ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles toujours en parabole? Jésus leur dit, il vous a été donné, vous qui êtes mes disciples. Vous qui êtes attachés à moi, vous pour qui je suis venu sur la terre, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est pour dire que le royaume de Dieu, sa compréhension n'est pas accessible à tout le monde. Contrairement à ce que nous disons, nous mettons dans le rang de la facilité les œuvres du Seigneur, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et donc, il mettrait à notre égard sans effort les choses du royaume. C'est à la fois vrai, mais c'est à la fois faux. Le monde nous a habitués à obtenir parfois sans effort des choses, valeureuses ou pas. Et ça, c'est une façon la plus excellente de nous reformater et de nous mettre sur la place de la paresse, y compris paresse intellectuelle et spirituelle. Parce que les choses que nous acquérons sans effort, nous ne les gardons pas. Ce que nous acquérons avec plus d'effort, nous avons tendance à le protéger et à le garder. Et Jésus va parler en parabole pour cacher à ses adversaires, le secret du royaume, accomplissant ainsi ce qui est dit dans la parole de Ésaïe. Je ne m'exprimerai pas des paraboles, j'annoncerai des choses plus secrètes depuis la création du temps. Et donc, les paraboles, c'est une façon pour Jésus de présenter des vérités spirituelles à travers des éléments de la vie courante, à travers des vérités que nous connaissons humainement, pour nous amener vers les choses de Dieu. Jésus va partir des choses que nous voyons, dont la définition dans notre tête est précise, pour nous amener à ouvrir notre esprit dans le monde de Dieu, à développer ce qu'on appelle une imagination, parce que l'imagination, elle n'est pas rétrécie, l'imagination. Quand Dieu parle de pain, c'est du pain qui est issu du blé. Mais dans la pensée de Dieu, il englobe encore une autre réalité qui est le pain de l'âme et de l'esprit. Et c'est de cette façon que Jésus essaie de décliner pour rendre accessible à l'intelligence de ses auditeurs les C'est deux paraboles que nous avons lues, parce que dans ce texte, il y a deux paraboles dedans. Ça paraît être les paraboles les plus simples, mais elles renferment des vérités très profondes. Leur impact dépasse les capacités des mots. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire en théologie pour comprendre ces vérités que recèlent ces proverbes. Elles sont captivantes parce que nous en faisons l'expérience chaque jour de notre vie. Ici, il s'agit d'une quête. Une quête de quelque chose qui se révèle précieux à notre cœur. Une quête de quelque chose qui peut répondre à nos multiples besoins. Ah, au sujet de besoins. En économie, on dit parfois que le besoin de l'homme est illimité. On confond besoin et désir en même temps. Mais quel est le besoin de l'homme? Elle se résume à une seule personne. Le besoin de l'homme, c'est Jésus. Parce qu'en lui, Dieu a enfermé tout. Richesse, gloire, longue vie, vie éternelle, tout est en Jésus. Tous les milliards que les gens ont, ils sont capables de le donner pour leur vie. Et ça, Dieu nous l'a donné. Donc, les besoins de l'homme se résument à un seul besoin, de Jésus. Que ferais-je si je paraissais, si je payais de l'argent ou des milliards? Qu'est-ce que je ferais? Quelle serait ma réaction? Si la compagnie française de jeu, je sais que vous n'avez pas joué, mais qui vous appelle que vous avez gagné des milliards, quelle serait votre réaction? Même si la parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. C'est donc une expérience humaine universelle. C'est pour ça que Jésus a pris l'exemple. Parce que tout le monde se sent concerné. Et Jésus nous invite à imaginer les valeurs du royaume de Dieu. Le premier, c'est le trésor caché. L'individu a trouvé un trésor enfoui dans un champ. C'est qui était rare d'ailleurs. Et ensuite, il est allé vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Il faut qu'il découvre la valeur du champ. Et c'est souvent ce niveau que nous, les chrétiens, l'ennemi nous attaque. On ne mesure pas la profondeur du royaume du Père. Le royaume que Jésus est venu mettre à notre disposition. Pourquoi? Parce que nous sommes captifs de nos cinq sens. Je ne dis pas que les cinq sens sont mauvais. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions jouir de notre environnement, d'être en contact avec le beau monde que Dieu a créé. Mais pour le monde spirituel de Dieu, les cinq sens ne suffisent pas. Bien au contraire, à un moment donné, ces cinq sens deviennent obstacles. On marche beaucoup plus par ce qu'on voit que par ce qu'on ne voit pas. Or, la Bible dit que ce qu'on ne voit pas est éternel. Ce que l'on voit est passager. Entre ce qui est passager et ce qui est éternel, lequel choisirions-nous? Voilà, l'enjeu, déjà que ça. Et nous permet déjà de faire le tri dans nos choix. Le chrétien pose un acte vierge, mais en même temps, en tant que citoyen du ciel, il pose des actes à répercussion éternelle. Je ne fais pas du bien pour avoir du bien à l'entour de mon vivant. J'obéis à Dieu en faisant du bien parce que je sais que même si de mon vivant je n'obtiens rien, mes enfants l'auront. Même si mes enfants ne l'ont pas, le temps viendra de récompense où Dieu me récompensera mon obéissance. Et lorsque vous posez les diagnostics de cette manière, vous travaillez sur les deux tableaux. Alors Jésus n'étant pas très intéressé par les détails, il est passé rapidement pour faire comprendre que, après qu'il ait découvert cet homme, le champ, il est allé vendre tout ce qu'il a de très précieux. Et nous retrouvons cette phrase quelque part dans Jésus. Celui qui a les mains attachées à la chaîne que les gardes en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Lorsque les disciples commencent à se poser des questions, le Seigneur, nous avons tout abandonné, nous avons abandonné les familles, nous avons abandonné nos biens, nous avons abandonné nos champs pour te suivre. Quelle est notre récompense? Et Jésus leur a dit que celui qui veut me suivre évalue le coût de la construction. C'est une parabole sur laquelle je veux venir. Si tu veux suivre Jésus, assieds-toi, tu évalues les coûts et tu es capable de tenir. C'est une longue distance. Sinon, ça ne doit pas t'engager dans la bataille. Donc, tout ce que tu possèdes pour acheter ce grand champ qui comporte des perles, de trésors de plomberie, ce qu'on appelle le trésor caché. L'homme doit tout payer. Il doit tout vendre. Tout ce qu'il a de mieux à la maison, voiture de collection, perles, bijoux, en or ou pas, ils font tout. Ils rassemblent l'argent dans une bourse pour aller acheter ce champ. Qu'il estime que la valeur est importante. Et ce champ, c'est le royaume de Dieu. C'est bien que la beauté et la gloire du royaume sont telles que celui qui le trouve, il sait ce qu'il a trouvé. Il sacrifie tout. En considérant tout comme une perte et en sachant ce qu'il a gagné. La foi chrétienne, car c'est la foi chrétienne en action qu'il s'agit, elle n'est pas toujours rationnelle. Quand on veut marcher selon la volonté du Seigneur, on peut apparaître déraisonnable aux yeux des gens, aux yeux du monde. Mais c'est la marche de Dieu. Rien n'est raisonnable dans la foi. Quand on marche dans la pensée du Seigneur, rien n'est raisonnable. Et c'est de cette manière que Dieu nous appelle à marcher, à considérer les choses du royaume. Le deuxième, c'est la parole de bon prix. Ici, l'accent est mis sur un échange commercial. Mais celui qui a acheté la perle de bon prix n'est pas un commerçant. Parce que généralement, un commerçant, il achète à moindre prix et il le vend pour faire une plus-value. Or là, il vend tout pour aller acheter une perle unique. Pas à cause du fait qu'il voulait faire une plus-value, mais à cause de la beauté et de la qualité de la perle, parce qu'elle a l'expertise. Je connais les qualités des perles parce que mon beau-père le faisait. Et parfois, j'appréciais les perles, je pensais que c'était un tout bon, il me dit, non, mais ça, c'est pas des perles, ça, c'est des meubles, ça. C'est des perles coupées en deux. Il ne vaut pas grand-chose, même si elle est belle, mais c'est pas ça. Et les perles dépendent aussi des qualités, des couleurs, des nuances. Et il y en a donc une seule coûte de fortune. Et c'est ce qui s'est produit. Ce marchand de perles, il va vendre toutes les perles qu'il possède pour aller acheter une seule perle. Le plan commercial de Proverbe, c'est-à-dire tout vendre pour obtenir l'objet de ce qui a de la valeur à ses yeux et de ce qu'il aime. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est valeureux. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à nos yeux? Le monde ou le royaume du Père? Voilà toute la question. Alors j'en conclue. Dans le serment sur la montagne, le Seigneur met la perle en relation avec ce qui est saint, ce qui a de la valeur. Et dans le livre de Proverbe, nous sommes invités à acquérir la vérité et à ne pas la vendre, à acquérir la sagesse et l'instruction et à ne pas la dilapider. Cette parabole nous appelle donc à considérer notre amour pour le royaume de Dieu. Avec le trésor, Jésus nous demande de réimaginer ce à quoi nous accordons de la valeur. Et ce que nous amène à remettre dans l'ordre nos priorités. Les acquis de ce bon monde sont périssables. Les choses du royaume de Dieu sont au-dessus de toutes les valeurs. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été achetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos ancêtres, de nos pères, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut et sans tache. Je finirai par des questions qui vont nous orienter dans nos prières individuelles, mais maintenant dans la prière de consécration. Serais-tu prêt à sacrifier tous les biens de ce monde pour obtenir quelque chose de finement meilleur? Le sacrifice que nous sommes amenés à faire, nous le faisons par amour du royaume de Dieu ou nous le faisons par peur d'être jugés par le Seigneur? Ici est remis au cours du jour les questions de valeur. Voilà, ces deux paraboles nous amènent à nous ajuster. À savoir dans quoi nous affectons notre énergie. Nous ne travaillons pas pour le salut, non. Nous travaillons à notre salut. Ce n'est pas pareil. Le salut, nous l'avons déjà. Mais nous travaillons à notre salut. Et ça, Dieu a donné des moyens de grâce. Mes frères et mes soeurs, la Bible, l'Église, les événements du monde, tout cela pour nous contribuer à nous sanctifier. C'est parce que nous sommes des humains, ayant des imperfections, que le mot sanctification a son sens. Si on était tous des seuls, ce n'est pas nécessaire. Et donc, ne rougissez pas de votre faiblesse. Ne rougissez pas de votre faillure. Souvenez-vous. Ce n'est pas par votre acte de justice que vous avez obtenu le salut, mais par l'acte de justice de Jésus le Christ. Reposez-vous sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Faisons de Christ Jésus notre priorité, le maître de notre cœur. Nous avons le cœur encombré. Encombré par la peur, encombré par l'angoisse, encombré parfois par des blessures, tenaces, cachées, que nous n'osons pas mettre en évidence devant le Seigneur pour être guéri. Et nous continuons à mener une piété, mais le Seigneur dit arrête, apporte-moi cette blessure. C'est quand elle sera bien guérie que tu peux aller maintenant témoigner. Jésus dit, venez vers moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Et quand Jésus le dit, il sait de quoi il parle. Et après, il dit, allez, allons faire la bonne nouvelle. Va témoigner de ce que tu as reçu de ma part, Jésus. Entre venez à moi et allez témoigner. Il y a un temps où le Seigneur te prend en charge pour te traiter, pour te nettoyer, pour guérir ta plaie, pour te soigner. Dieu te dit ce matin, accorde ton cœur, donne-lui ton cœur, donne-lui les blessures, donne-lui tes attendements. Il peut les réciter pour que ton cœur soit libre pour le servir. Seigneur, nous portons notre attention sur toi ce matin, vers tout ce qui est honorable, vers tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite ton respect, ce qui est juste, ce qui est pur. Sois béni, Seigneur. Nous te rendons.